évêque délégué de la Conférence des évêques belges à la Commission catholique nationale pour l'écuménisme, justement. Alors, vous pouvez lire sur le petit feuillet un descriptif plus détaillé, mais que je vous résume. Vous êtes né à Ostende, à la côte. Vous êtes entré au grand séminaire de Bruges. Vous avez fait vos études. Et notamment, vous avez un doctorat de l'Université pontificale grégorienne.
Jésuite.
Et non seulement cela, mais vous avez étudié un mystique flamand, Jan Ruysbroeck. Et nous savons bien que beaucoup de jésuites flamands sont très attachés à cette figure, à Anvers, Jos Alas par exemple, avec lequel j'ai la joie de vivre pour l'instant, à la colline là. Voilà, vous avez été professeur au grand séminaire de Bruges, où vous aviez fait vos études, et père spirituel, directeur spirituel, jusqu'en 97. Ensuite, vous avez été appelé à Rome, où vous travaillez là avec une double fonction. Vous êtes membre de l'équipe du cardinal Walter Kasper au Conseil pontifical pour la promotion de l'unité chrétienne et vous prenez part au dialogue théologique avec l'Église orthodoxe, les Églises orthodoxes orientales, l'Église assyrienne. Et là, vous avez pas mal d'activités. En même temps, vous gérez les relations entre le Conseil et certaines communautés ou mouvements, entre autres Thésée, par exemple, la communauté de l'Arche. Le 28 octobre 2008, eh bien, vous êtes rappelé en Belgique pour devenir évêque d'Anvers. Et depuis lors, eh bien, vous assumez dans la conférence épiscopale pas mal de fonctions importantes. Et je dois dire que nous vous en remercions beaucoup et nous prions régulièrement pour votre travail. Beau et difficile, mais très, très utile et très important pour notre Église de Belgique. Merci. Je vous laisse la parole.
Merci bien, Père. Je vais éviter les répétitions par rapport à ce que j'ai entendu du diacre. J'ai pris quelques notes ici. Je voudrais dire quelques mots sur l'orthodoxie en Belgique, une orthodoxie d'immigration et d'accueil, et puis un mot sur le défi œcuménique et le défi européen, qui me paraissent importants. D'abord, un petit mot sur l'orthodoxie en Belgique. On a vu les chiffres. Une orthodoxie qui est en effet une orthodoxie d'immigration, mais je dirais immigration d'une nécessité plutôt que de luxe. Comme il a été dit, pour des motifs de travail, le communisme en Russie, la chute du communisme, puis le marché du travail, les mines, la sidérurgie, où on avait besoin. Ce qui explique que beaucoup d'orthodoxes sont arrivés, soit, disons, le Borinage et au Limbourg, du côté flamand, les Ukraines notamment. Alors, du côté catholique, je pense que les orthodoxes ont été bien accueillis, surtout que, disons, vu d'un point de vue catholique, les orthodoxes nous sont plus proches au niveau, dogmatique, spirituel, liturgique. À l'époque, j'ai parlé plusieurs fois avec Mgr Emilianos, qui était à Anvers curé d'une de ses toutes premières paroisses orthodoxes, grecques-orthodoxes, et qui me disait, peut-être parce que c'était à moi, mais qui me disait beaucoup de bien du clergé anversois catholique à l'époque, qu'ils étaient très gentils, disons, dans l'accueil de lui et de sa communauté. Alors, de bons rapports favorisés aussi, vous l'avez dit, par la législation belge et la reconnaissance des églises chrétiennes, notamment de l'orthodoxie, et des moyens financiers accessibles par cette voie, que ce soit les salaires des prêtres et les subventions aux fabriques d'églises, comme on dit encore en Belgique, Napoléon, selon le code Napoléon. Alors, je ne veux pas tracer ici toute l'histoire, mais je pense que ces bons rapports entre catholiques et orthodoxes s'expliquent aussi par le rôle qu'ont joué certaines personnes et certains lieux. Quant aux personnes, je pense notamment déjà à l'époque au cardinal Mercier, qui, lui et son entourage, étaient particulièrement ouverts à l'œcuménisme, même des précurseurs œcuméniques, si on peut dire, et certains endroits comme le monastère de Chevetogne. Ce n'est pas parce que je vois le père Antoine, mais c'était déjà dans mes notes. Donc Chevetogne, qui a quand même, pour la Belgique, a été, disons, le haut lieu de rencontre, mais aussi d'études, de réflexions et de partage entre catholiques et orthodoxes au pluriel. Alors, quant au dialogue théologique entre l'Église catholique et les Églises orthodoxes, là aussi, je veux quand même mentionner quelques noms de personnes qui ont joué et jouent encore un rôle de première importance. Je pense ici au père, feu le père Emmanuel Lanne, qui, disons, depuis le temps du Concile Vatican II et après à Rome, mais dans tout le circuit international catholique orthodoxe, était quand même parmi les théologiens les plus importants, et qui, dans la rédaction de pratiquement tous les documents qui touchent au dialogue catholique orthodoxe, a tenu la plume. Que ce soit, le décret Unitatis Redintegratio du Concile Vatican II, que par après, pratiquement tous les documents de la Commission internationale catholique orthodoxe ont passé par sa plume. De même pour le père André de Halleux, qui était professeur, feu le père de Halleux aussi, professeur à Louvain-la-Neuve, qui, légèrement différent du père Lanne, c'était deux caractères, deux personnalités différentes mais complémentaires, mais qui a joué aussi un grand rôle dans ce dialogue. Actuellement, il y a encore le père Franz Bowen, qui est dans le dialogue belge lui aussi. Et puis du côté orthodoxe, pour mentionner deux noms, Monseigneur Athanase, qui est le représentant de l'Église orthodoxe grecque près de la communauté européenne, est dans le dialogue dans la délégation orthodoxe, comme Mgr Ilarion Alfeyev, qui est un des deux membres russes orthodoxes. Bon, je pense que ce qu'on dit sur l'ouverture œcuménique de la Belgique a favorisé aussi au rapport entre catholiques et orthodoxes, non seulement au niveau national ici en Belgique, mais aussi au niveau international, que ce soit à Rome ou dans le dialogue international catholique-orthodoxe. Alors, je veux dire quelques mots sur le défi œcuménique, parce que c'est quand même dans ce contexte qu'il faut situer nos rapports ici en Belgique. À la fin du Concile Vatican II, décembre 1965, on a vécu, disons, ce moment de première importance, la levée des anathèmes entre Constantinople et Rome. Constantinople et Rome, mais Constantinople, parce que donc, c'était là que les anathèmes s'étaient exprimés des deux côtés. Alors, aussitôt s'est posée la question, mais comment est-ce qu'on passe de la levée des anathèmes au rétablissement de la pleine communion? Et combien de questions y a-t-il encore à résoudre entre levée des anathèmes et rétablissement de la communion, pleine communion? On a un peu l'impression, malheureusement, que plus que ça dure, plus il y a des dossiers à résoudre. Donc, quelquefois, mieux vaut aller vite, sinon on multiplie les questions. Et c'est un peu ce que vit le dialogue catholique-orthodoxe, à mon avis. Je me rappelle avoir vu un dossier clos et même un peu secret au Vatican de négociations officielles qui ont eu lieu en 66-67 en préparation de la visite du patriarche Athénagore à Rome, et à Rome il allait participer à une célébration eucharistique avec le pape Paul VI, et donc la question théologique qui se posait était la suivante: est-ce que la levée des anathèmes permet déjà que le patriarche reçoit la communion des mains du pape, ou qu'il concélèbre déjà avec lui l'Eucharistie? Alors, dans cette petite commission, avec l'accord de Paul VI, on était arrivé à la conclusion, si Athénagore veut le faire, on le lui permettra. Finalement, on n'a pas permis, enfin, on n'a pas, disons, accepté, enfin, comment dire, on n'a pas appliqué cette ouverture pour des motifs plutôt politiques et pratiques, pas théologiques, parce qu'on disait, tant que l'orthodoxie n'est pas une dans cette décision, on risque de diviser davantage l'orthodoxie. Enfin, et quelques autres raisons pratiques aussi. Mais pour vous dire, à ce moment-là, on pensait qu'il n'y avait que quelques questions encore à résoudre. Alors, plus le temps a passé, plus de questions sont venues s'ajouter au dossier. Comme vous avez dit, Père, je suis arrivé à Rome au Conseil pontifical en 97, enfin 97 en bon français. C'était, disons, la pleine crise du dialogue catholique-orthodoxe. Depuis 94-95 se posait la question de l'uniatisme. Le dialogue théologique avait été interrompu. Bon, ça l'est encore, mais les relations étaient très très tendues et même remplies pratiquement de haine et de non-volonté de continuer encore. Alors j'ai participé aussi depuis l'an 2000-2001 aux négociations pour remettre en marche ce dialogue. Et puis j'ai oublié un peu, hein, donc en 2004-2005, on a pu réunir enfin, les deux délégations catholiques et orthodoxes dans une nouvelle composition et on est arrivé au document, le dernier, sur l'Église communion, le rapport, disons, dans l'Église comme communion entre le principe de primauté et le principe de collégialité. Voilà, et tout se joue là dans ce dossier actuellement. Comment rétablir la communion selon les principes qui existaient avant le grand schisme de 1054 et quel était, disons, l'équilibre ou le rapport entre les deux principes de primauté et de collégialité. Donc, quand on était encore, quand on appartenait encore à cette Église indivise. Alors, pour dire quelques mots encore sur le défi œcuménique, c'est vrai qu'il y a du travail à faire des deux côtés. Donc le dialogue, on est à deux, il y a un rapprochement à faire des deux côtés pour se rencontrer plus ou moins au centre. Alors, du côté catholique, il y a certainement du travail à faire. Pour dire deux choses, quand on parle de l'Église comme communion, ça veut dire communion, unité dans la diversité. Du côté catholique, on est très fort dans l'unité, plus faible dans la diversité. Donc, l'Église catholique, elle a du travail à faire du côté de la diversité, et pour le dire d'une façon, disons, plus hiérarchique, du côté du principe de la collégialité. Comment donner forme au principe de la collégialité dans l'Église comme communion? Le principe de la primauté, nous l'avons, et en bonne dose, mais le principe de la, disons, de collégialité, comment lui donner, disons, une expression plus forte, plus souple, plus riche, disons, et plus proche aussi, disons, de l'ecclésiologie que nous avons en commun. Et pour ce qui est du service de l'évêque de Rome, parce que dans le dialogue avec l'Église orthodoxe, bon, c'est pratiquement là où se trouve, disons, le nœud du problème, le service de l'évêque de Rome, qu'il soit davantage exercé comme un service d'unité, comme le disait le pape Jean-Paul II dans sa merveilleuse encyclique Ut unum sint. C'est vrai que pour un catholique, pour le catholique que je suis, le ministère de l'évêque de Rome, il fait partie de la plénitude du ministère épiscopal dans l'Église. Il est garant de l'unité de l'Église, l'unité au niveau de la foi et de la vie sacramentelle et du service au monde. Mais qu'est-ce que cela veut dire, une primauté qui garantisse, qui exprime, qui soit le visage d'une unité, une unité dans la diversité. Et donc là, il y a, disons, du travail encore du côté catholique, réfléchir davantage, comme le pape Jean-Paul II le demandait au moins, disons, à trois reprises dans son encyclique Ut Unum Sint. Alors, du côté orthodoxe, il y a un peu, disons, le pendant. Du côté orthodoxe, communion veut dire aussi unité dans la diversité, mais là, on a plus souligné la diversité que l'unité. Oui. Et donc, je crois, si je peux, si vous permettez que je le dise, donc, selon moi, il y a du travail à faire du côté orthodoxe, dans le domaine, disons, de la primauté. Je ne veux pas dire par cela, disons, de créer un pape, disons, quelque part, une primauté papale du côté orthodoxe, mais pour le moment, manque un peu, disons, le centre d'autorité qui fasse fonctionner la collégialité. Parce que c'est bien de dire collégialité, mais il faut une primauté pour faire fonctionner la collégialité. Et ce qu'on voit un peu, selon moi, dans l'orthodoxie à présent, c'est un manque de fonctionnement dans la collégialité par manque de primauté. Enfin, c'est vous, Père, qui avez dit qu'ici on marche sur des œufs. Enfin, je continue à marcher sur vos œufs. Donc, voilà. Bon. Donc, je crois que du côté orthodoxe, là, il y a, disons, du travail à faire. Le principe de la primauté, mais toujours dans un contexte orthodoxe, qui veut, disons, donner sa pleine valorisation au principe de collégialité. Alors, un deuxième point que je veux indiquer, si vous le permettez, du côté orthodoxe, c'est la notion de tradition et la théologie de la tradition. Selon moi, je ne sais pas où nous en sommes dans la tradition. Je pense que peut-être un tiers de la tradition, nous l'avons derrière nous, et peut-être que deux tiers de la tradition se trouvent encore devant nous. Mais comment passer de la tradition derrière nous à la tradition devant nous? Parce que quand on dit tradition, oui, c'est pas seulement la tradition héritée du passé, c'est aussi la tradition vivante de l'Église, la tradition dans la continuité et la façon dont nous pouvons transmettre aujourd'hui aux générations à venir ce que nous avons reçu du passé, ce que nous vivons aujourd'hui comme une actualisation, un enrichissement de cette tradition pour la donner aux générations suivantes. Mais là donc il y a une question. Bon, je veux bien accepter que du côté catholique ou du côté protestant, on a été trop souple dans cette théologie de la tradition. Peut-être que du côté orthodoxe manque quelquefois une certaine souplesse. Donc comment développer une théologie de la tradition qui permette une réflexion créative dans la continuité. Bon, ceci dit donc pour le dialogue œcuménique. Évidemment, vous avez parlé, Père, de la conférence épiscopale, par exemple, du Benelux. Là, je suis tout à fait d'accord que c'est un heureux développement, un heureux, disons, progrès du côté orthodoxe que d'avoir créé, il y a 2-3 ans, ces conférences nationales ou régionales où toutes les églises orthodoxes, disons, que ce soit de la famille de Constantinople, de Moscou, les Roumains et les autres communautés, au moins les évêques se trouvent dans ce qu'on peut appeler une conférence épiscopale. Et je crois que là, du côté catholique et orthodoxe, il y a un développement parallèle et qui peut nous aider. Alors, on a toujours dit aussi, et là je l'ai vécu, le dialogue théologique, il faut le soutenir par le dialogue de la vie, comme on disait, ou le dialogue de la charité. Réfléchir ensemble, ça aide, mais au fond, c'est la vie qui crée les fondements, qui donne la vitalité, l'espoir. Et donc, comme on dit en anglais, les good practices. Donc, il faut développer, disons, les good practices entre catholiques et orthodoxes et dans la réciprocité. Donc, l'accueil, l'amitié, le partage dans la réciprocité. Disons, nous ici, envers les minorités orthodoxes, si je puis dire, dans d'autres pays d'Europe, vis-à-vis des minorités catholiques ou protestantes, mais qu'il y ait vraiment ce partage dans la réciprocité, parce que partout il y a minorité et majorité, et qu'il y ait des rapports, disons, d'amitié, de soutien, de partage entre minorité et majorité, telles qu'elles se présentent dans l'un ou l'autre pays, ou l'une ou l'autre région. Voilà, c'était mon deuxième chapitre, je n'en ai que trois. Le troisième, le défi européen. Le défi européen, on est quand même à Bruxelles. Pas seulement capitale d'Europe, mais encore capitale de la Belgique. Alors, orthodoxes et catholiques, nous avons derrière nous une histoire, disons, d'unité impériale. Une histoire d'unité impériale. On était un tant qu'il y avait un bon empereur. À Rome ou à Constantinople. Quand l'empereur disparut, notre unité tombait pratiquement. Bon, j'exagère un peu, mais ce que je veux dire, c'est qu'il est grave qu'entre Églises, quand nous sommes laissés à nous-mêmes, nous ne trouvons pas les moyens pour rétablir l'unité que nous devrions avoir au niveau ecclésial. Donc souvent, ce sont ou bien les empereurs ou les rois ou d'autres structures politiques qui nous ont forcés à rester ensemble ou à retrouver la voie du rapprochement et de l'unité. Bon, je le dis aux catholiques, je le dis aux protestants, je le dis aux orthodoxes, je le dis à tous les chrétiens, que là, il y a une faiblesse. Laissés à nous-mêmes, nous sommes quelquefois comme des enfants qui commencent à se discuter et Et je continue un peu cette histoire. Quand je regarde pour le moment l'Europe en construction, je trouve grave, mais vraiment grave, que nos églises au pluriel souvent sont en queue plutôt qu'en tête du peloton qui pousse l'intégration de l'Europe. Et sérieusement, nous devons nous demander qu'est-ce que nous, comme Église, nous ajoutons au projet européen. Et souvent, que ce soit à Rome du côté catholique, que mon expérience était plutôt en Grèce et en Constantinople, j'avais un collègue pour le monde slavo. Mais donc, que ce soit du côté catholique, du côté orthodoxe, j'entendais souvent beaucoup plus parler de dangers européens, de risques européens, de pertes du côté européen que, disons, d'espoir et de conviction. Et donc, laisser à nos politiciens le seul poids, disons, de convaincre nos populations pour avancer dans ce projet européen-là, ce n'est pas tout à fait, disons, ce qui nous fait honneur comme chrétiens. Enfin, un peu de critique, ça va. Hein, donc. Alors, pour cette construction de l'Europe, je dirais aussi qu'ici, disons, et je retourne en Belgique, il ne faut pas regarder seulement le triangle œcuménique des frontières, comme je l'ai dit. Le triangle des frontières, c'est-à-dire Rome au sud, Constantinople à l'est, Moscou au nord et peut-être Westminster à l'ouest. Mais c'est les frontières. Nous, en Belgique, en France, en Allemagne, on n'est pas sur les frontières, on est au centre. Alors, un bon match de football, ça se joue quelquefois par les frontières, par les lignes. Mais en général, ça se joue au centre. Et donc, ce n'est pas parce qu'on n'est pas à Rome à Moscou, à Constantinople ou à Westminster, qu'on n'est pas, disons, au centre du terrain du football œcuménique, et qu'on a son jeu à jouer. Un jeu qui se fait aussi au centre de l'Europe. Voilà. Qu'est-ce que j'espère pour l'orthodoxie en Belgique? Deux choses. Que ça reste une orthodoxie dans son originalité et donc dans sa diversité. Donc une orthodoxie qui reste ce qu'elle est, ce qu'elle a été, liée aussi aux communautés, d'émigration, mais donc aux communautés nationales d'où viennent ces églises. Donc, un Anversois, flamand, il peut bien se convertir à la communauté roumaine orthodoxe, mais il ne deviendra jamais roumain, et donc jamais roumain orthodoxe. Donc, mais l'enrichissement est là, que du côté orthodoxe, ce lien entre peuple, nation dans le bon sens, culture, langue et tout cela, et religion, que cette union-là, elle soit gardée, vécue dans vos communautés, et de là, pourra venir l'enrichissement que vous avez apporté aussi en notre pays. Donc, n'imitez pas trop l'Église catholique. Bon, laissez le catholicisme aux catholiques et soyez, orthodoxes à votre façon. C'est là où vous avez votre propre visage. Et en même temps, donc, la diversité et la collaboration. La collaboration pour les défis, surtout de l'évangélisation, tel qu'il se présente maintenant chez nous. Bon, nos enfants et vos enfants, nos petits-enfants et vos petits-enfants, c'est des enfants qui habitent le même quartier, les mêmes villes, qui vont aux mêmes écoles et qui partagent les mêmes difficultés quant à la foi chrétienne ou à la vie d'église ou à la participation au sacrement. Et là, travailler à un engagement en commun, un langage catéchétique en commun, là, je crois qu'il y a des défis qu'on peut, regarder ensemble. Mais toujours en gardant un peu l'approche propre, de vos traditions orientales, orthodoxes, mais de collaborer davantage dans ce défi, dans le défi pastoral, cette présence dans la société qui est la nôtre, mais qui est vraiment la nôtre, donc, parce que vous aussi, vous êtes, devenu pleinement ici habitant de ce pays. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire à ce moment. Merci.